passe. Et puis toute tes censures.
Embarque dans ma voiture.
Et toi et mon PDG, tu méprises tes employés avec toutes tes fermetures.
Embarque dans ma voiture.
Et toi et mon politicien, tes promesses ne valent rien avec toutes tes coupures. Embarque dans ma voiture.
Avenue Thiers, j'ai des amis.
Avenue Thiers,
chaque fois que je vais les voir.
Avenue Thiers,
Avenue Thiers,
oh.
Mon cœur se serre.
Avenue Thiers, mon cœur se serre.
Avenue Thiers, mon cœur se serre. Qui saigne,
j'ai le cœur qui saigne.
Tu es fou enfermé, raison déconnecté. On t'attache à ton lit,
à ton lit.
Tu hurles dans ton délire. Tu ne peux plus agir. C'est cela la médecine. Des couloirs trop blancs. Bois ton médicament. Tu es dans quatre murs. Des pilules, des piqûres. Ça va durer des mois. La folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse disparaisse, se passe. Voilà la traveineuse. Ta solution aqueuse. Si c'est ça la médecine, je peux faire la guillotine. Si c'est ça la médecine, je peux faire la guillotine. Si c'est ça la médecine, je peux faire la guillotine.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération Anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour et bonjour Sylvie.
Bonjour tout le monde.
Sylvie du groupe d'Ivry, de Libertaire d'Ivry.
Oui.
Et nous allons parler aujourd'hui de folie, plus exactement peut-être de psychopathie, à travers... la lecture d'un livre que tu peux nous présenter, d'un extrait ou d'un chapitre d'un livre, qui a un recueil d'articles, tu m'as dit.
C'est un recueil d'articles parce que donc, ça s'appelle « Principes élémentaires de propagande de guerre » de Anne Morelli, sous-titre utilisable en cas de guerre froide, chaude ou tiède. Et donc, en fait, ce n'est, les principes en question n'ont pas été établis par Anne Morelli elle-même, mais enfin, dans le livre, elle les étoffe avec de nombreux exemples concrets. Hein, par exemple, je vais vous dire quels sont ces 10 principes établis par un certain Lord Ponsonby en 1914, un lord anglais. Le chapitre que tu vas lire, oui. Ça sera le chef du camp adverse à le visage du diable ou la fraude service.
Mm-hmm.
Parce que entre autres, on accuse les chefs du camp adverse de folie. D'ailleurs, on peut en voir des exemples actuels, ça marche tout le temps, ces principes-là. Et j'ajouterais même que quand ces principes de propagande ne sont pas appliqués, eh ben, ça marche beaucoup moins bien, la propagande, je veux dire. Uh-huh. Donc voilà quels sont ces 10 principes. 1. Nous ne voulons pas la guerre. Donc, une parenthèse, parmi les exemples cités par Anne Morelli, quelqu'un qui jure de ses grands dieux que lui, la seule chose qu'il veut, c'est vraiment la paix, c'est son truc, tout le monde le connaît pour ça. et que vraiment c'est parce qu'il a été forcé par l'attitude de ses adversaires à faire la guerre, mais vraiment ça serait que lui profondément il est pacifiste. C'était Hitler, et c'est des citations avérées, hein, c'est pas inventé, il y a des sources et tout, quoi.
Ok.
C'est pour vous dire, personne ne veut jamais la guerre. Et d'ailleurs vous remarquerez qu'il n'y a jamais de ministère de l'attaque, il y a toujours que des ministères de la défense.
Exactement.
C'est vrai. Donc, deux, le camp adverse est seul responsable de la guerre. Donc, c'est un peu la conséquence du premier principe. Trois, donc celui qui va nous occuper, le chef du camp adverse a le visage du diable ou la fraude service. Quatre, c'est une cause noble que nous défendons et non des intérêts particuliers. Par exemple, vous pouvez constater, jamais, non, mais c'est pour aller leur piquer leur pétrole ou...
Non, jamais. Oui.
Bon. 5. L'ennemi, ou pour augmenter notre territoire, ou jamais c'est des trucs comme ça. Non, mais c'est... bon. 5. L'ennemi provoque sciemment des atrocités. Si nous commettons des bavures, c'est involontairement. Ça marche tout le temps, hein, vous remarquerez. 6. L'ennemi utilise des armes non autorisées. Donc, c'est quoi, une arme non autorisée?
Ah ben, c'est... à toi de me le dire.
Bah oui, c'est une arme que t'as pas. Dès que tu l'as, elle devient super loyale.
Très bien.
Ah oui. Et elle donne des exemples d'armes considérées comme déloyales quand un camp ne l'avait pas, et puis évidemment considérées comme très loyales par le camp qui l'a. Et puis dès que tu commences à l'avoir, alors là, c'est bon, elle devient tout à fait loyale. Bon, c'est tout. 7. Nous subissons très peu de pertes. Les pertes de l'ennemi sont énormes. Ça marche tout le temps, tout le temps. C'est vrai, même dans la guerre en Ukraine, tu peux te dire qu'ils ont essayé de faire ça tant qu'ils pouvaient. Hein, je veux dire,
Il ne faut pas décourager les combattants. Voilà.
Donc, 8. Les artistes et intellectuels soutiennent notre cause. Bon. 9. Notre cause a un caractère sacré. En substance, Dieu est avec nous. Mm-hmm. Il est toujours avec tout le monde. Tu te demandes comment t'arrives à t'y retrouver. 10. Ceux qui mettent en doute notre propagande sont des traîtres. Donc, juste une parenthèse par rapport à Anne Morelli. Ça m'a beaucoup consternée parce qu'on avait même fait une présentation du livre à Publico pendant je sais plus quelle guerre, hein, et tout pour faire un truc contre la guerre, parce que à part la personnalité d'Anne Morelli elle-même, alors sa personnalité à elle, bon, je sais pas, elle est pas anarchiste, hein, c'est pas ça, mais dans le bouquin j'ai pas grand chose à dire, on voit bien qu'elle est pas, qu'elle serait plutôt un peu républicaine, quoi, mais enfin j'ai pas, il y avait rien qui me choquait, mais je suis au regret de dire qu'elle s'est mise à faire des conférences avec Michel Collomb, qui est quelqu'un qui est très complotiste.
Complotiste, oui.
Voilà, et qui effectivement est un antimilitariste, et j'essaie de trouver des raisons pour lesquelles elle peut ne pas voir à quel point c'est pas quelqu'un de fréquentable pour des tas de raisons, parce qu'il fait partie aussi de ces gens qui, par, je dirais, anti-impérialisme américain, prétendument, vont se jeter dans les bras de n'importe quel dictateur, genre Bachar al-Assad ou des gens comme ça, quoi, tu vois. Il y en a des comme ça, que du moment que t'es anti-américain, c'est que t'es quelqu'un de bien, quoi. Mmh. Donc c'est vraiment quelqu'un de pas fréquentable, et faire des conférences, se compromettre avec ce gars-là. Alors donc elle est belge, peut-être que... Enfin, à un moment, je m'étais dit, ah, ben elle est pas au courant. Non, je peux pas croire qu'elle soit pas au courant. Donc c'est navrant, mais en tout cas le livre, j'ai vraiment rien à redire, parce que c'est très factuel, on va dire.
Eh bien, on va en lire quelques extraits tout à l'heure.
Voilà, donc tu avais une brève, je crois.
Oui, parce que ben en fait, on revient sur cette idée que l'ennemi est le diable ou est fou. Et donc là, j'ai une brève qui date du mois de mai, le 28 mai. Vous trouvez dans 6 médias, donc c'est 6 médias, c'est un site, c'est un peu le Uber du journalisme. Enfin bon, c'est des journalistes qui sont payés. Voilà, bon, bref, je vais pas entrer dans les détails. Des psychiatres inquiets pour la santé mentale de Donald Trump. Comme le rapporte The Insider, jeudi 22 mai, certains spécialistes s'inquiètent du déclin de la santé mentale du président américain à un an de ses 80 ans. C'est un avis tranché qui interpelle. comme le relatent des spécialistes de la santé mentale auprès du site américain The Insider, jeudi 22 mai, l'état psychologique de Donald Trump n'aurait cessé de se dégrader depuis 2017 et son premier passage à la Maison-Blanche. Pour étayer leurs propos, les professionnels de santé mettent en avant les discours parfois incohérents de la part de Donald Trump, mais aussi des blagues grossières ou encore des gestes déplacés.
Excuse-moi. Des blagues grossières, c'est un signe de déclin mental. Des blagues grossières.
Ah bah oui, apparemment, c'est... Donc tous ceux qui font de l'humour, finalement, peut-être...
Non, seulement quand c'est grossier.
Ah oui, c'est ça. Dès 2017, 27 psychiatres américains avaient fait part de leurs craintes concernant le président américain dans « The Dangerous Case of Donald Trump », le cas dangereux de Donald Trump. Un livre qui explique en quoi sa santé mentale pourrait représenter une menace pour la sécurité mondiale. Depuis, la psychologue américaine Bandy Lee a pointé du doigt les signes de la détérioration mentale de Donald Trump. Elle évoque notamment un vocabulaire devenant plus dépouillé, des phrases incomplètes et incohérentes, des fautes grammaticales, d'un narcissisme entre guillemets spectaculaire, mais aussi de la paraphasie et de la persévération.
Qu'est-ce que c'est,
alors, je crois qu'on va en avoir un détail un peu plus loin dans l'article. C'est un peu de l'histoire des erreurs verbales. Quoi. C'est...
Ah, alors,
des dizaines d'exemples d'erreurs verbales depuis son retour à la Maison-Blanche.
Tu vois, c'est des lapsus, quoi.
On va voir. C'est expliqué un peu plus loin. Auprès de nos confrères, le psychologue John Gardner observe également des difficultés de vocabulaire criantes pour Donald Trump depuis son retour au pouvoir. Bon, alors, nos confrères, ça signifie que c'est peut-être un psychiatre qui écrit cet article. Avec des dizaines d'exemples d'erreurs verbales à l'appui. Je cite « Ce qui se passe, c'est que parfois le président essaie de dire un mot, qu'il arrive à en prononcer la première partie, mais qu'il doit en inventer la seconde. Donald Trump dira alors quelque chose comme « Michis » pour « missile » ou « Christmas » pour « Noël » parce qu'il ne peut pas terminer le mot », explique-t-il. Un score parfait à un test remis en question par des spécialistes. En réponse à ses détracteurs, Donald Trump a passé un examen médical de 5 heures le 11 avril dernier, à l'issue duquel son médecin personnel, Sean Barbarella, a affirmé qu'il était en excellente santé cognitive comme physique et tout à fait apte à exercer les fonctions de chef d'État. Mais plusieurs spécialistes ont pointé du doigt le manque de fiabilité du test, qui se baserait seulement sur une série de questions très basiques. Si cet outil se révèle utile pour identifier la démence dans la population générale, sa sensibilité demeure trop faible pour que même un score parfait comme obtenu par Donald Trump permette d'exclure une déficience cognitive grave pour le cas d'un individu. Alors voilà, donc il y a des outils qui existent pour identifier la démence de la population générale. Moi, je ne savais pas. Bienvenue aux États-Unis. Et voilà, donc moi ça m'a fait penser à des livres qui avaient été écrits, dont on avait un petit peu parlé aussi. C'est par exemple un livre qui était paru dans les années 90, c'est un vieux livre, c'est La folie cachée des hommes de pouvoir de Maurice Berger. Et le à propos, c'est pourquoi sont-ils aussi nombreux à vouloir être président de la République, ministre, député, maire, responsable d'association, à s'obstiner à prendre pareille charge de soucis, de conflits, de responsabilités? La réponse de Maurice Berger, psychiatre et psychanalyste, est loin d'être rassurante. Souvent doué d'une intelligence remarquable, l'homme de pouvoir révèle des sentiments profondément infantiles, d'une excessive fragilité narcissique qui le rend dépendant du regard d'autrui. Il trouve dans la gestion de la vie publique un moyen privilégié pour soigner la folie cachée qui l'habite. Ainsi, les personnes qui ont le plus besoin de détenir le pouvoir sont-elles le moins capables de l'exercer sainement? Un livre à l'usage de tous les citoyens, alors c'est la quatrième de couve, hein, soucieux de comprendre les mécanismes souterrains qui régissent leur destin. Donc ça, c'est... moi, je ne suis pas trop d'accord avec cette position-là, de voir la folie dans tous les hommes de pouvoir.
Bah, disons que le problème, c'est que, comment dire, c'est un petit peu comme ce qu'il y a même dans les principes en général. Ce qui est le plus intéressant dans les exemples donnés dans le chapitre là, qui est rédigé par Anne Morelli, je tiens à préciser que ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout ce qu'elle dit est sourcé. C'est vraiment sourcé. Je veux dire, c'est ça qui est... C'est pas, tu vois, seulement des... parce qu'il y a des fois, elle dit, il y a des trucs qui ont été dits, enfin, tu verras dans le chapitre, pour démontrer que tel ou tel homme d'État était faisait des déclarations complètement folles, sauf que c'est absolument... C'est le truc qui est passé quasiment dans le domaine public, il a dit ça, on n'a jamais retrouvé les sources. En réalité, il l'a probablement même jamais dit. C'était pour démontrer qu'il était fou, et c'est ce que tu cherches à démontrer par rapport... Enfin, quand t'es dans le camp adverse, quoi, toi, tout simplement. Mais au fond, est-ce qu'on est dans une société où la soif de pouvoir est mal vue, même d'une manière générale?
Tu c'est vois, ça, je comprends oui, pas. Oui, voilà.
Donc, si tu veux, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'excès? Et mais le fait de traiter quelqu'un de fou, je vois ça aussi comme une façon de comment dire, bah, quand tu veux insulter quelqu'un, et puis bon, évidemment, le camp adverse qui est représenté par son chef, parce qu'elle commence par dire, on peut pas détester tout un peuple, donc il faut qu'il soit symbolisé, représenté par son chef. Et le truc, c'est de se dire, s'il est fou, c'est un peu que, il est un peu comme Aguirre dans Aguirre la colère de Dieu, quelqu'un qui va faire n'importe quoi, ou comme dans Dead Zone, il devient fou, le président des États-Unis, et il appuie sur le bouton rouge parce qu'il sait plus tout ce qu'il fait. Mais c'est aussi très vexant. C'est-à-dire que si tu veux dire, c'est quelqu'un qui est mégalomane, enfin, je veux dire, quelqu'un qui est fou, c'est quelqu'un, quand on traite quelqu'un de fou, qu'on lui va te faire soigner, c'est une manière de l'humilier. C'est plus humiliant que de dire t'es un salaud. Tu vois ce que je veux dire? De dire t'es fou. Ça veut dire tu sais même pas ce que tu fais. T'es malade, t'es inférieur, en fait. Alors que dire t'es un salaud, c'est beaucoup moins. Enfin,
ou
c'est
un criminel. Beaucoup moins
vexant, tu vois, d'un point de vue viril, par exemple, un homme digne de ce nom préfère être traité de salaud que d'être traité de malade mental ou autre, d'ailleurs, tu vois. C'est humiliant, c'est infériorisant. Donc, il y a aussi cette raison.
Oui.
Mais tu dis à partir de quel stade? Tu dis, évidemment que pour être assez prétentieux pour croire que tu vas diriger même ne serait-ce qu'une ville, c'est pas à l'échelle humaine. Donc, il faut quand même être un peu à côté de ses pompes, en effet, pour... Mais personne trouve que c'est fondamentalement un signe de folie.
Non, donc, un signe de présomption peut-être.
Même pas. Beaucoup de gens pensent que... quand les gens vont voter, c'est qu'ils croient vraiment qu'il y a des gens qui peuvent diriger les affaires, résoudre les problèmes de millions d'individus. Donc non, ils se disent même pas ça. C'est quelque chose que tu sors d'un chapeau à partir du moment où tu veux pourrir quelqu'un, quoi, toi, tout simplement. Enfin, comme pour les armes qui sont pas autorisées quand tu les as pas... il est fou quand c'est le chef adverse.
Je pense que tu vois, voilà, donc ce jugement, c'est un jugement en fin de compte.
Oui.
Il est parfois même attribué non pas à des personnes mais à des entreprises.
Ah bon.
C'est-à-dire il y a un essayiste qui a écrit un livre qui s'appelle Psychopathe et compagnie. Et compagnie, c'est le jeu de mots avec un groupe multinational, en fait. La soif pathologique de profit et de pouvoir. Alors, il y a le mot pathologique. C'est un essai, donc, de Joël Bacan. Et je vais vous en lire un peu aussi la quatrième, le résumé, vite fait. Hein. Psychopathe et compagnie dissèquent avec rigueur et brio les mécanismes pathologiques qui régissent la soif de profit et de pouvoir des grandes entreprises. Le juriste, en plus c'est un juriste, c'est pas un psychiatre, Joël Bacan montre ici que les multinationales auxquelles il donne le sens générique de corporation ont été constituées par la loi en personnes morales dont le comportement de plus en plus déviant rappelle à s'y méprendre celui d'un psychopathe et dont les agissements destructeurs peuvent, si l'on n'y met pas un frein, conduire aux pires abus et entraîner la perte de l'humanité. Depuis les premiers essais de Peter Drucker, aucune analyse n'avait cerné avec autant d'acuité la nature de la corporation en tant qu'entité économique et juridique. Faits, chiffres et témoignages à l'appui, Bacan fonde sa démonstration sur les observations suivantes. La corporation se prévaut du mandat dont la loi l'a investi pour défendre sans relâche et sans discernement son propre intérêt économique, au mépris des conséquences désastreuses que ses actions ont sur les autres. Guidée par cette intérêts que rien ne peut contenir. La corporation n'hésite pas à sacrifier les individus, les communautés, et quand les choses tournent mal, ses propres actionnaires, elle en vient même à s'autodétruire, comme le montrent les scandales de Wall Street. Bon, c'est pas précis, on n'a pas de précision. Si la corporation se vante d'une responsabilité sociale souvent bénéfique pour son image, ce n'est souvent que pour donner le change et dissimuler sa vraie nature. Les gouvernements ont renoncé à tout contrôle sur la corporation, dont les égarements sont pourtant flagrants en optant pour une déréglementation qui la libère de toute contrainte juridique et une privatisation qui accroît sa mainmise sur la société. Malgré les défaillances structurelles sur lesquelles repose la grande entreprise, Bakan croit que le changement est encore possible et propose un ensemble de réformes concrètes, pragmatiques et réalistes qui privilégient la réglementation juridique et les outils de contrôle démocratique. Voilà.
Ben, après, c'est vrai que ça peut se discuter. On peut se dire qu'en effet, quel est dans le fait de vouloir le pouvoir et de vouloir toujours plus de pognon, faire un diagnostic psy, c'est qu'il faut quand même aussi comprendre, c'est que la grille d'analyse psy et la grille d'analyse, on va dire, politique, c'est rare qu'elles se rejoignent. Enfin, c'est des choses qui se combattent un peu, quoi. Oui. Mais le fait est que la différence entre les différents types de capitalistes, c'est qu'il y en a qui pensent que ça doit pas être réglementé parce qu'ils pensent s'en sortir mieux sans assurance, parce qu'on peut dire que l'État, c'est un peu ça, tu vois. Mais tout ça, c'est d'ordre assez pratique, en réalité. Il y en a qui disent on s'en sort mieux si c'est déréglementé, et d'autres qui pensent que c'est une sécurité d'avoir l'État qui est là, regarde quand il y a eu le Covid, et que l'État peut venir au secours d'entreprises qui ont un moment de difficulté. Mais après, qu'est-ce que les diagnostics psy viennent foutre dans l'histoire?
Voilà, donc comparer une entreprise à vraiment une personne qui aurait un comportement presque de pervers narcissique.
Oui, voilà. Parce que tu appliques cette grille d'analyse psy absolument à tout, quoi, en fait.
Oui.
Voilà. Mais bon.
Eh bien, on va faire une pause musicale et puis je vais te rejoindre dans le studio pour lire des extraits du livre. Rappelle-moi le titre.
Principe élémentaire de propagande de guerre. Voilà. Je suis quasiment sûr. Il est réédité. C'est pas un très gros bouquin, donc il doit pas être très très cher. Et franchement, je le conseille parce que c'est une mine d'arguments et d'informations pour toute personne antimilitariste. Voilà.
Run away. Oh, 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 oh.
Alors on est toujours sur Radio Libertaire, 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération Anarchiste. Et c'est, on vient d'entendre Talking Heads, Psycho Killer. Et donc extrait de Principes élémentaires de propagande de guerre de Anne Morelli. L'ennemi a le visage du diable ou la fraude service. On ne peut haïr un groupe humain dans son ensemble, même présenté comme ennemi. Il est donc plus efficace de concentrer cette haine de l'ennemi sur le leader adverse. L'ennemi aura ainsi un visage, et ce visage sera évidemment odieux. On ne fera pas seulement la guerre contre les Boches, les Japs, mais plus précisément contre Napoléon, le Kaiser, Mussolini, Hitler, Nasser, Kadhafi, Khomeini, Saddam Hussein ou Milosevic. Cet épouvantail odieux dissimulera la diversité de la population qu'il dirige où le simple citoyen pourrait retrouver ses alter-ego. Pour affaiblir la cause adverse, il faut présenter pour le moins ses chefs comme incapables et faire douter de leur fiabilité, de leur intégrité. Une méthode simple consiste à encadrer de guillemets les mots président ou général, s'agissant d'ennemis, ce qui mettra immédiatement en doute leur légitimité. Le entre guillemets président Karadzic, le entre guillemets général Mladic. Mais dans toute la mesure du possible, il faut diaboliser ce leader ennemi, le présenter comme l'immonde à terrasser, le dernier des dinosaures, un fou, un barbare, un criminel infernal, un boucher, un perturbateur de la paix, un ennemi de l'humanité, un monstre. C'est de ce monstre que viendrait tout le mal. Le but de la guerre serait dès lors de le capturer et sa mise à terre signifierait le retour immédiat à la morale et à la civilisation. Dans certains cas, ce portrait de notre ennemi peut nous sembler justifié, mais il ne faut pas perdre de vue que ce monstre est la plupart du temps très fréquentable avant le conflit, et même dans certains cas après la victoire ou la défaite. Ainsi, juste avant la Première Guerre mondiale, la famille impériale autrichienne est dans les meilleurs termes avec la famille royale belge et le Kaiser allemand, est des plus appréciés en Grande-Bretagne. Quelques mois avant la déclaration du conflit, il est présenté par l'Evening News, 17 octobre 1913, comme un parfait gentleman. Nous voyons tous en le Kaiser un gentleman de très noble caractère, dont la parole vaut mieux que l'engagement formel de maint autre, un hôte à qui nous nous plaisons toujours à souhaiter la bienvenue, et que nous voyons partir à regret un souverain dont les ambitions qu'il nourrit pour son peuple sont basées sur le même bon droit que les nôtres. Fin de citation. Mais lorsque le conflit éclate, les critiques les plus folles vont se concentrer sur le Kronprinz, dont on écrit qu'il est pickpocket et qu'il a giflé son père, et surtout sur le vieux Kaiser. Celui-ci devient rapidement un fou, un assassin et un boucher, comme le montre la lettre de Sir W.B. Richmond, parue dans le Daily Mail du 22 septembre 1914. Guillaume, l'aliéné, ne fera trembler ni l'Angleterre, ni l'Europe civilisée, ni l'Asie, bien que la cathédrale de Reims ait été détruite sur son ordre. Ce dernier acte du chef barbare ne fera que resserrer nos rangs pour que nous nous débarrassions d'un fléau dont le monde civilisé n'a jamais vu l'équivalent. Le fou est en train d'empiler le bois pour son propre bûcher. Le monstre ne saurait nous inspirer de la terreur. Nous serrons les dents, sachant bien que, quand même, nous devrions mourir jusqu'au dernier. Le Judas moderne et son infernale engeance seront balayés. Pour atteindre ce but de justice, nous devons joindre à la patience, l'assiduité au labeur et l'énergie. Notre grande Angleterre versera volontiers son sang pour débarrasser la civilisation d'un monarque criminel et d'une cour criminelle qui ont réussi à transformer un peuple docile en une horde de sauvages. Sir James Crichton a dit à Dumfries « Pour le Kaiser, la corde. Le fusillé serait lui accorder la mort honorable du soldat. La seule absolution pour ce criminel, c'est la potence. » Dans le même ordre d'idées, on pouvait lire dans The Times du 15 mai 1915 « Lord Robert Cecil a dit que les responsables des terribles forfaits, des violations en série de toutes les lois et de tous les usages de la guerre civilisée commis par les Allemands, étaient les dirigeants de l'Allemagne, l'empereur et ses conseillers immédiats, et c'est sur eux que doit retomber, si possible, le châtiment et notre colère. » Et un éditorial du Daily Express réclamant que le Kaiser soit radié de l'ordre de la jarretière assurait « Des villes ont été incendiées, des vieillards et des enfants ont été assassinés, des femmes et des jeunes filles ont été violées, des pêcheurs inoffensifs ont péri noyés sur l'ordre de ce criminel couronné. Il aura à répondre en ce grand jour où le monde entier sera jugé des victimes du Falaba et du Lusitania. » Voilà. À la fin de la guerre, le président Wilson, ayant exigé que le peuple allemand changeât de gouvernement s'il voulait voir la guerre cesser, le Kaiser se réfugia aux Pays-Bas. Les Alliés demandèrent officiellement son extradition, mais les Hollandais refusèrent. Les Alliés feignirent de s'incliner devant le refus hollandais et eurent peine à cacher la satisfaction que ce refus leur causait. L'article 227 du traité de Versailles précisait bien qu'un procès serait ouvert contre l'ex-empereur Guillaume pour offense suprême à la morale internationale et à la sainteté des traités. Mais les Alliés eurent la prudence de ne jamais l'ouvrir, car il aurait facilement débouché sur une démonstration de l'inanité des preuves de sa culpabilité. Ainsi, l'une des « entre guillemets pièces à conviction » de la responsabilité personnelle du Kaiser dans les crimes commis par l'armée allemande était une lettre de Guillaume II adressée à l'empereur d'Autriche dans les premiers jours de la guerre où l'empereur écrivait « Mon âme se déchire, mais il faut tout mettre à feu et à sang, égorger hommes et enfants, femmes et vieillards, ne laisser debout ni un arbre ni une maison. Avec ces procédés de terreur, les seuls capables de frapper un peuple aussi dégénéré que le peuple français, la guerre finira avant 2 mois, tandis que si j'ai des égards humanitaires, elle peut se prolonger pendant des années. » Le document qui, évidemment, document entre guillemets, qui évidemment aurait permis de conclure à la responsabilité personnelle du Kaiser, fut présenté par les professeurs Larnaud, droit public général, et de la Pradel, droit des gens, de la faculté de droit de Paris. Les professeurs se contentaient de signaler comme référence que cette lettre avait été publiée dans le numéro 18 du bulletin de l'œuvre des écoles d'Orient, dirigé par Mgr Charmetan. Personne ne put cependant obtenir des précisions sur la source de cette publication. D'où Mgr Charmetan tenait-il cette lettre? Où et quand avait-elle été écrite? Où se trouvait l'original? Quelle preuve avait-on de son authenticité? La lettre, dont l'existence fut formellement démentie par le Berliner Tageblatt du 22 novembre 1921, et qui est très probablement apocryphe, fut cependant reproduite à l'infini dans la presse française comme la pièce à conviction de la responsabilité personnelle du Kaiser. Ces terribles accusations sur le rôle personnellement néfaste du Kaiser furent rapidement oubliées après le conflit et on peut rappeler que ce « entre guillemets criminel » surnommé Attila pendant la guerre reçut des alliés la permission de vivre tranquillement en Hollande où il termina ses jours.
Juste une parenthèse par rapport à cette fameuse lettre qui prouverait qu'il est fou, donc c'est que c'est un principe, non pas de propagande de guerre, mais de guerre, de dire que semer la terreur est d'un point de vue pratique une bonne idée. Enfin, je veux dire, c'est mon père qui était militaire de carrière, disait que c'était pour les raisons pour lesquelles il fallait terroriser la population, par exemple indochinoise, parce que en faisant des exactions qui les frapperaient de terreur et qui du coup faciliteraient la victoire. À partir du moment, enfin je veux dire, pour résumer les choses, si la fin justifie les moyens, et que ce soit pour la guerre économique ou que ce soit pour la guerre tout court, évidemment que la fin justifie les moyens. Ben, en effet, l'absence de scrupules est un bon moyen. La différence avec Aguirre ou Caligula, on va dire, c'est le fait que si, à la limite, Aguirre fait plein de morts, mais qu'il arrive à conquérir un territoire, comme c'est, puisque c'était un conquistador, ben il est pas fou du tout. Il est arrivé à ses fins. C'est simplement un salaud, un fumier, dénué de scrupules et pour qui la fin justifie les moyens. Le problème avec Aguirre, c'est qu'il non seulement il mène tout le monde à la mort, mais en plus pour rien quoi. Je veux dire, il court après l'Eldorado qui n'existe pas et il se retrouve au milieu de nulle part avec tout le monde mort autour de lui et lui bientôt au milieu de singes qu'il prend pour une population qui va le suivre. Enfin, donc là tu te dis oui d'accord, mais finalement même cette lettre produite comme qui serait censée enfin, c'est probablement effectivement un truc inventé, je sais pas si ça se dit aussi crûment, mais s'il l'avait écrite, ça montrerait seulement quelqu'un de prêt à tout pour arriver à ses fins, et ça c'est le propre de tous les guerriers, d'ailleurs même à tous les étages, on va dire. C'est semer la terreur et quelque chose qui se faire passer pour terroriser, c'est quelque chose qui facilite. Même quand on avait projeté les combattants de l'ordre sur l'entraînement des CRS, le formateur, il dit on doit terroriser, on doit avoir une réputation de gens dénués de scrupules, ultra violents. Ça nous facilite les choses de faire peur. Donc, en réalité, même tout ce qu'on fait comme publicité sur leur violence, ça les arrange. C'est pas. On peut dire, est-ce que c'est de la folie que d'être quelqu'un qui a un salaud dénué de scrupules ? C'est comme ça qu'on pourrait plutôt poser la question. Mais c'est pas des gens qui savent pas ce qu'ils font. On peut pas dire ça, contrairement. Pas du tout, même. Ouais, enfin, c'est une parenthèse.
D'accord. Alors, je poursuis le texte. Le monstre. Le monstre était redevenu l'alter ego des autres chefs d'État, un peu à la manière d'autres monstres ad intérim, comme Saddam Hussein ou Yasser Arafat, longtemps diabolisés par les médias occidentaux, assassins, terroristes, avant de devenir un honorable interlocuteur, trinquant avec tous les chefs d'État, amicalement reçus par le président des États-Unis et par le pape. Le chef du camp adverse, quelles que soient par ailleurs ses perversions réelles, doit être présenté sous un jour inhumain, monstrueux, comme un détraqué mental. Hitler présentait sans doute effectivement des traits psychologiques plus qu'inquiétants, mais lorsque les Alliés diffusent un petit film truqué de la signature de la reddition française à Compiègne en juin 1940, ils diffusent l'image d'un fou agité. Les quelques images où Hitler, souriant et satisfait, claque des talons en levant le genou, vont être multipliées pour donner l'illusion qu'il danse de joie sur place. Cette gigue d'Hitler confirmera, dans les pays alliés non occupés, où le film est présenté, que le dirigeant allemand est, de fait, un pantin fou allié. Depuis la Seconde Guerre mondiale, Hitler a été considéré comme un tel paradigme du mal que tout chef ennemi doit lui être comparé, être son héritier direct ou son sosie. Du moins au moment du conflit, car la propagande crée des Hitler par intermittence, souvent honorable avant la crise et parfois réhabilité lorsque la crise est passée. Ce fut bien sûr le cas de Staline, Mao, Kim Il-sung ou Ceausescu, pourtant photographiés maintes fois en d'aussi honorables compagnies que celle du roi Baudouin de Belgique, de Charles de Gaulle, du président américain Nixon. Mais bien plus récemment encore, il date de quand le livre des années 90 peut-être, non ?
Oui, ouais. C'était au moment des années, au départ, c'était les années 90, oui. Ouais. Elle parle par exemple plus précisément de la guerre au Kosovo, oui, tu vois, oui. De la guerre au Kosovo, des guerres effectivement en Irak, etc.
Lors de la guerre contre... Ah oui, donc tous les affreux de service ont également, affreux de service entre guillemets, ont également dû soutenir cette comparaison. La comparaison à Hitler. Lors de la guerre contre l'Irak, Saddam Hussein, présenté auparavant comme notre meilleur allié laïque contre l'Iran des ayatollahs, fut comparé au dictateur nazi, même sous son aspect physique. Moyennant une légère retouche photographique pour raccourcir ses moustaches, l'hebdomadaire américain Newsweek parvint à le présenter en couverture comme un sosie d'Hitler. La couverture du Vif l'Express du 14 février 1991, quant à elle, affichait le sombre irakien sur un fond noir tout aussi inquiétant, et l'hebdomadaire présentait son programme en ces termes. Ce que prépare encore Saddam, nucléariser, déstabiliser, surprendre, terroriser, sacrifier, tenir, il n'en va pas autrement de Milosevic que l'hebdomadaire italien L'Espresso du 9 avril 1999 présente en couverture sous le titre Hitlerosevic, avec une moitié du visage correspondant au visage de Hitler et à l'autre celle de Milosevic. Suivant la même mise en scène, le Vif l'Express du 2 au 8 avril 1999 présente au début des bombardements contre la Yougoslavie une couverture très sombre, affichant à gauche la moitié du visage de Milosevic et à droite le titre « L'effroyable Milosevic ». Dans le corps de l'hebdomadaire, au cours d'un texte appuyé de sombres et inquiétantes photos du dirigeant yougoslave, on apprendra que la capacité de nuisance de Milosevic est loin d'être épuisée. Celui qui, 3 ans plus tôt, levait son verre avec Chirac et Clinton, lors des accords de paix à propos de la Bosnie signés à Paris, et un névrosé dont les deux parents et même l'oncle maternel se sont suicidés, symptôme évident d'un déséquilibre mental héréditaire. Le Vif l'Express ne cite aucun discours, aucun écrit du maître de Belgrade, mais par contre relève ces sautes d'humeur anormales, ces explosions de colère, maladives et brutales. Quand il était en colère, son visage se tordait, puis instantanément, il recouvrait son sang-froid. Son frère est un trafiquant de cigarettes, nous apprend Le Monde du 8 avril 1999. Son épouse est une arriviste, une ambitieuse et une déséquilibrée, dont les problèmes psychologiques remontent au fait qu'elle fut reconnue tardivement par son père. Et le Vif de conclure, Slobo et Mira ne sont pas un couple, c'est une association de malfaiteurs.
Juste, je rappelle que Anne Morelli est belge, c'est pour ça qu'elle cite souvent le roi Baudouin et que aussi qu'elle cite des journaux qu'on ne connaît pas forcément.
Ah oui, voilà. Le Vif, l'Express en l'occurrence. Dans Le Monde, Pierre Hassner justifie les bombardements sur la Yougoslavie parce qu'ils identifient le premier coupable des maux de l'ex-Yougoslavie, le dernier tyran des Balkans, et ils le désignent de la voix et du geste comme l'adversaire. La technique de diabolisation du leader ennemi est efficace et continuera sans doute longtemps à être appliquée. Il faut aux lecteurs et aux citoyens des bons et des mauvais clairement identifiés, et le plus simpliste actuellement est de traiter l'affreux de service de nouveau Hitler. Quiconque voudrait non pas prendre sa défense, mais même douter qu'il soit l'incarnation précise du mal, est immédiatement disqualifié par cette comparaison. Sans jamais expliquer qui le lui aurait attribué, Libération utilise, 17 juillet 2000, le sobriquet de Hitler pour désigner l'instigateur des Noirs qui procède aux occupations de terres au Zimbabwe et titre « Au Zimbabwe, le jusqu'au boutisme de Hitler ». Le même quotidien français écrit que Schengerei Hitler Unzvi a été déclaré coupable par la Haute Cour pour avoir incité à ses occupations illégales. Et il ajoute, 26 avril 2000, le nom de guerre de ce dirigeant, comme le rapporte la BBC, en dit long sur son humanisme. De même, un article du Vif l'Express favorable aux fermiers blancs du Zimbabwe, qui sont aussi, on l'oublie trop souvent, les grands propriétaires des colons britanniques qui se refusent à prendre la nationalité du pays. Donc un article est hostile aux partisans du président Mugabe, qui sont aussi, on l'oublie trop souvent, des paysans très pauvres du Zimbabwe, présente sous le jour le plus défavorable l'assaut mené contre les fermiers blancs. Pour dévaloriser totalement le soulèvement, le texte dénonce les caciques locaux, mais surtout la figure de proue des anciens combattants, Tchengerai Hunzvi. Il prendrait ses ordres à la présidence où l'on craint sa capacité de nuisance. D'un mot, il est démonisé. Dans le titre, comme dans la légende de sa photo, il est désigné comme Tchengerai Tchengerai, Hitler, Hunsvi. Toute sympathie du lecteur pour la cause défendue par les Noirs du Zimbabwe est alors impossible.
Donc oui, voilà, c'est... ouais, je trouve que si tu veux, ça pose... Bon, en effet, on peut se demander, d'ailleurs c'est vrai que c'est... On peut se demander, j'avais une copine qui me disait, qu'est-ce qui effectivement est le plus effrayant ? Être dirigé par quelqu'un qui sait, qui est une vraie ordure, mais qui sait quand même ce qu'il fait, ou être dirigé par Caligula, Aguirre, enfin tu vois, quelqu'un qui sait plus du tout ce qu'il fait. Tu vois, c'est... Et, ouais. Et c'est quelque chose aussi qui renvoie à un autre des chapitres, et qui est le fait, enfin pour sur le fait que on va subir très peu de pertes et les pertes de l'ennemi sont énormes. C'est-à-dire que ben dès le début de la guerre, par exemple avec Poutine, on a présenté Poutine comme quelqu'un qui fait n'importe quoi. Donc il était évident qu'il pouvait pas gagner la guerre. Parce qu'il est nul. Enfin, tu vois, je veux dire, si t'es fou, tu fais n'importe quoi. Si tu fais n'importe quoi, t'as aucune chance de gagner. Tu vois, alors que, ben, tu peux être un vrai... Si t'es un vrai salopard dénué de scrupules, t'as quand même si c'est pas le fait de s'en foutre pas mal des autres qui est un signe évident de que tu fais n'importe quoi. Tu peux très bien faire ce qu'il faut pour arriver à tes fins. Si... Mais c'est vrai que c'est aussi, enfin encore une fois, c'est une façon de dévaloriser, mais c'est aussi une façon de rassurer sur le fait qu'il n'a aucune chance de gagner, il ne sait pas ce qu'il fait. Tu vois, je ne sais pas si tu te rappelles, que dès le début de la guerre, on avait beaucoup dévalorisé l'état mental de Poutine.
Oui.
On disait que, ben, de toute façon, il faisait n'importe quoi, que c'était évident qu'il allait dans le mur, il envoyait tout le monde dans le mur, enfin, voilà quoi.
Oui, comme Trump, Poutine a aussi, effectivement, eu des. Comment dire a été soupçonné d'être fou à un certain moment.
Ben, disons que c'était même plus. Enfin, au départ, on le disait carrément.
Oui, oui.
Et là, sur l'idée que Trump, par exemple, s'il fait n'importe quoi, à un moment ou à un autre, ses ouailles, on va dire, vont le désavouer. Parce qu'il va les emmener dans le mur. D'ailleurs, dans Aguirre, à un moment donné, Aguirre, il est sur le radeau, et puis il dit, oh, il y a un bateau en haut de l'arbre, on va le prendre, et puis on va le prendre, on va descendre la rivière. Et le moine qui est sur le radeau lui dit, ça va comme ça, on te suit plus. Hein. Tu vois, et effectivement, tu te dis, si jamais il n'arrive pas à ses fins, ça sera la prof. Enfin, s'il est fou, il n'arrivera pas à ses fins, et s'il n'arrive pas à ses fins, on va le désavouer, tu vois.
Oui.
Moi, on parlait tout à l'heure de Napoléon, et effectivement, tu peux t'interroger sur ce qui pouvait animer un mec comme Napoléon, mais enfin, moi, je ne sais pas comment tu as été élevé, j'ai pas été élevé dans l'idée que Napoléon était un fou furieux, si. Enfin, je ne sais pas, c'était plutôt une espèce de modèle, même. D'ailleurs, c'est marrant parce que sur l'idée de les gens qui se prennent pour Napoléon, qui est une grande figure de l'idée de la folie, d'ailleurs, eh bien, je me souviens même d'une petite BD de Sampé, comme ça, sur un mec qui va voir un psychiatre parce qu'il est complexé, parce qu'il est petit. Et en effet, c'est quelque chose qui se disait quand les gens étaient complexés pour ça. Mais quand on est petit, ça veut pas dire qu'on est nul. Regarde Napoléon, il était petit, etc. Et donc, le mec repart de chez le psy, vachement convaincu. Et la fois d'après, il revient et on voit qu'il se prend pour Napoléon.
Ah oui, ouais. C'est un peu l'histoire de l'entonnoir, finalement. L'entonnoir, c'est le chapeau, en fait, le bicorne de Napoléon.
Ah, je savais pas que c'était ça représentait.
Il me semble, oui.
Mais en effet, bah d'ailleurs, c'est comme maladie mentale, ce serait non pas le fait que tu fais n'importe quoi, mais que t'es mégalomane et que t'as pas de raison d'être... voilà, tu te trompes parce que tu vaux rien et tu te prends pour quelqu'un qui lui valait quelque chose, tu vois. Et dans les cours d'histoire, on nous présentait pas du tout Napoléon comme quelqu'un qui avait une espèce de délire de puissance il en a à son actif quand même des morts, hein. C'est pas tous les psycho-killers qui peuvent lui arriver à la cheville quand même, mais il n'était pas du tout présenté de cette manière, et ouais. Parce que en plus, si jamais ça marchait, ben c'était tout ce qu'on lui demandait. Pourtant, ça a pas marché si bien que ça, mais à partir du moment où la mégalomanie conduit vraiment à la victoire, ben c'est bien la preuve que le mec il est pas si fou que ça. En fait, ce qu'on va stigmatiser, c'est la défaite et ou le fait, enfin voilà, le fait que on te, comme Caligula, tu vas aller faire la guerre contre des roseaux. Après tout, il vaut mieux faire la guerre contre des roseaux que contre des gens, tu vois.
Comme Don Quichotte et les moulins à vent.
Voilà, c'est ça. Donc tu vas nous remettre une.
Moi je voulais finir. Par un extrait d'un d'un petit bouquin que, enfin d'un bouquin dont on avait déjà parlé assez souvent à l'entonnoir, c'est l'imposture de la maladie mentale de Alain Bachand, qui est un philosophe québécois. L'imposture de la maladie mentale. Critique du discours psychiatrique et au chapitre donc la personnalité antisociale entre parenthèses psychopathe. Eh bien, je vais vous lire quelques petits extraits pour exprimer un peu ce qu'on exprime un peu aussi, entre autres, depuis le début de l'émission. Le terme psychopathe a une forme connotation négative. Il peut être utilisé pour exprimer des sentiments d'indignation face à des personnes moralement mauvaises et en cela peut donner lieu à un certain consensus. C'est également une appellation redoutable. Mais le psychopathe pourrait tout aussi bien être appelé salaud incurable, brute impitoyable, violent profiteur irresponsable, et ainsi de suite. Psychopathie enrichirait plus le vocabulaire éthique que médical. On a mis au point des méthodes afin d'identifier et de prédire la psychopathie. Par exemple, la psychopathie pourrait être évaluée à partir de 20 critères, chacun obtenant une note de 0, 1 ou 2. L'échelle d'évaluation totale varie de 0 à 40. Un score de 30 et plus est généralement considéré comme indicatif de psychopathie. RDR, Psychopaths and Their Nature. Selon cette estimation, plus le score est élevé, plus il y a de risques que la personne évaluée commettent des crimes, ce qui signifie que plus un individu est jugé antisocial, égocentrique, manipulateur, impulsif, irresponsable, incapable de sentiments de culpabilité et d'empathie, plus il aura tendance à commettre des actes criminels ou violents. Est-ce étonnant ? Cela dit, ces méthodes ne doivent pas être trop prises au sérieux, car les interprétations auxquelles elles peuvent donner lieu permettent aux évaluateurs de les adapter, par exemple en contexte judiciaire, en fonction du mandat qu'ils reçoivent. Dans cette mesure, ceux qui ne sont pas favorables à l'accusé accorderont un score plus élevé de psychopathie et inversement. Quelle que soit la validité de ces méthodes, elles portent essentiellement sur les comportements du très mauvais citoyen. Mais que ces comportements soient en mesure d'être identifiés et prédits jusqu'à un certain point ne témoigne pas pour autant d'une réalité médicale. Sans que nous ayons à tenir compte des aspects techniques de ces méthodes, il est raisonnable de penser que plus une personne est considérée comme impitoyable, incapable d'empathie, de remords, etc., plus elle sera portée à commettre des actes répréhensibles. De même, plus une personne est considérée comme douce, capable d'empathie sociale, etc., moins elle sera portée à commettre des actes répréhensibles. Il y a un modèle théorique, Violence Inhibition Mechanism, selon lequel l'incapacité de contrôler son agressivité par manque d'empathie est susceptible de conduire à la psychopathie. Mais on peut également être incapable de contrôler sa douceur par un excès d'empathie. Le problème en psychiatrie est le tort causé par une incapacité d'agir autrement. Fait de nous un malade et le bien causé par une incapacité d'agir autrement, le bien causé par une... fait de nous un citoyen exemplaire.
Juste une parenthèse, je note ça parce que j'ai vu ça aussi dans le chapitre sur la normalité de Janoff. Ah. C'est cette idée de la modération, ni trop ni trop peu, tu vois.
Ah oui.
Là, tu peux faut pas être trop empathique non plus, mais faut être, enfin tu vois, faut un juste milieu de choses.
Oh,
et
donc,
c'est ça être normal. C'est la modération finalement.
Oui, donc Janoff, un personnage dont on parlera,
oui, on en reparlera
dans une émission prochaine. Ouais. Donc, être impulsivement poussé à aider une vieille dame à traverser la rue par bonté spontanée n'est pas maladif, mais être impulsivement poussé à lui faire un violent croc en jambe par méchanceté spontanée est maladif et s'expliquerait par des théories médicales.
Ça dépend de la vieille dame. Hein.
voilà, alors... Après, donc, problème moral ou problème médical, alors il y a toute une production de toute une liste donc de qualificatifs pour définir la psychopathie. Là, il y en a une page entière et je vous en épargne. Les définitions susceptibles d'être données se veulent le psychomédical. Il y a même le DSM qui est cité d'ailleurs. Alors qu'elles sont morales, comme les descriptions ci-dessus en témoignent amplement. Psychopathe est en réalité un synonyme de personne moralement mauvaise. Comme nous l'avons mentionné, bien qu'elle soit définie en psychiatrie comme une affaire médicale, la psychopathie est davantage un problème de moralité, ce qui a été souligné par de nombreux auteurs. Le terme est un exemple de moralisme masqué en sciences médicales, M. Cavadino. Il est presque un synonyme de mauvais. Gigan, être psychopathe signifie être moralement répréhensible, non fiable, dangereux, et cela ne relève pas d'une expertise médicale. H. Tosh, la psychopathie est un mode de vie moralement condamnable. M. R. Levinson, et enfin, le concept comprend un ensemble hétérogène de déviances sociales qui cache un jugement moral sous les dès dehors de diagnostics psychiatriques. R. Blackburn. D'ailleurs, à lire les cas de ceux qui sont présentés comme des psychopathes, nous avons la nette impression qu'il ne s'agit que de gens immoraux, impitoyables, socialement inadéquats ou violents. RDR. La nature immorale de la psychopathie paraît si évidente que cela est étonnant que des psychiatres la décrivent en termes de symptômes et de diagnostics. Voilà, et ben. On a encore 4 minutes. Eh ben, on va peut-être passer à une petite musique. Et puis, est-ce qu'on a une annonce à faire
Je voudrais conseiller la lecture d'une bande dessinée. C'est oui. Ballon Hill, d'un certain Denis Bourdeau. Et c'est en vente à Publico. C'est une bande dessinée que Denis il a fait. En la lisant, je me disais, tiens, il a vraiment un univers, hein, je ne dis pas ça pour te flatter, mais vraiment, on était d'accord là-dessus, Laurent et moi. Franchement, c'est vraiment pas mal. Je me disais, tu pourrais même peut-être le lire en mode pièce de théâtre, je trouve.
Voilà. Oui, c'est un très bon livre, je oui. confirme. Alors, peut-être que je voulais aussi faire une annonce de quelque chose qui va se passer, non pas à Paris, mais à Lyon. Abolir la contention, soirée d'échange et sortie de brochure, mercredi 25 juin, 19h. Il y a un an, une journée d'échange autour de l'abolition de la contention en psychiatrie réunissait des personnes concernées, des pères aidants, des proches, des soignants, des camarades. De cette journée est née une brochure, Abolir la contention, récit d'une journée sur l'entrave en psychiatrie. Nous vous invitons à une soirée de sortie de brochure et d'échange sur l'abolition de la contention en psychiatrie le mercredi 25 juin 2025 à 19h à l'atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu, Lyon 7. Cette soirée nous permettra de diffuser des brochures, les brochures, de financer de futures impressions, d'échanger autour d'un verre et d'une collation. Surtout, cette soirée sera l'occasion de reparler de l'entrave en milieu psychiatrique et de faire exister le fait que nous sommes de plus en plus, à nous élever contre ces pratiques. Nous voulons aussi profiter de cette soirée pour créer un espace de partage et de rencontre entre des personnes concernées par la contention, les troubles psychiques et le soin. Différents collectifs à Lyon se créent et luttent pour un soin humain, nous souhaitons faire de cette soirée un espace de rencontre entre ces collectifs. Pour que nous puissions au mieux organiser cette soirée, n'hésitez pas à nous contacter, blablabla. Voilà, et donc si vous voulez individuellement ou collectivement porter une parole autour de cette thématique. Eh bien, voilà. Au revoir, et puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, peut-être. Thank you.
rayon de soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Bonjour à tous, on va essayer de comprendre un petit peu jusqu'où on en est arrivé là. Vous écoutez Un rayon de soleil, l'émission du sud de la France de Radio Libertaire. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous avons une conférence de l'Université de Genève, dans laquelle a présenté par Noam Chomsky, sur qu'est-ce que le langage et en quoi est-ce important. Et on va voir que le langage, ça fait partie des choses fondamentales dans la manipulation des masses, et ceci explique peut-être cela. Et donc je vous inviterai à écouter cette conférence dont l'original était en anglais et qui a été traduite en français. C'est cette traduction française que nous vous présentons ce jour. Tout de suite un petit peu de musique et on commence la conférence juste après.